Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Elle est l'une des femmes les plus puissantes au monde. La chancelière allemande Angela Merkel s'apprête à passer la main après 4 mandats, 16 années au total passées au pouvoir. L'Allemagne organise dimanche ses élections fédérales. Les électeurs seront donc appelés à élire leurs députés. Et la majorité au Bundestag, le Parlement allemand, désignera ensuite son successeur à la chancellerie. Ces élections marquent la fin d'une ère, l'occasion pour nous de dresser le bilan de la politique menée par Angela Merkel au niveau national, européen et international. Alors quelle empreinte laissera la chancelière allemande? Quelles sont ses réussites et quels sont ses échecs? C'est le décryptage du jour, soyez les bienvenus. Avec nous ce soir, 2 invités à mes côtés en studio. Anne Sall, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en études germaniques à la Sorbonne Université. Et nous sommes également en ligne avec Paul Maurice. Vous êtes chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, auteur de l'article « Allemagne-Union européenne, l'héritage ambigu d'Angela Merkel », article paru dans la revue Politique étrangère. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
Alors je le disais, Angela Merkel a passé 16 ans au pouvoir, c'est un record de longévité en tout cas en Allemagne. D'abord Paul Maurice, qu'est-ce qu'elle incarne, qu'est-ce qu'elle représente pour les Allemands et notamment pour cette jeune génération, les moins de 16 ans qui n'ont connu qu'elle au pouvoir?
Alors Angela Merkel, d'une manière générale, représente une forme de stabilité du système politique allemand. Parce que 16 ans au pouvoir, de manière démocratique, avec des hauts et des bas au niveau des élections, c'est quand même assez impressionnant. Pour les personnes qui n'ont connu qu'elle, ça représente aussi l'Allemagne d'après la réunification. L'Allemagne déjà réunifiée. On n'est plus dans les problématiques du début des années 2000 où il fallait se tourner vers l'avenir, où on payait encore les lendemains de la réunification. Et Angela Merkel, avec le fait d'avoir été socialisée à l'Est, incarne aussi cette Allemagne qui peut intégrer tout le monde. Alors c'est plus mitigé au résultat, mais ça a aussi une forme de symbole de cette deuxième partie des 30 ans de la réunification allemande.
Anne Sall, sur le plan sociétal, comment est-ce que vous définiriez ce qu'a été la politique d'Angela Merkel? Est-ce qu'elle a réussi à induire des changements en profondeur dans la société allemande?
Alors, elle est surtout à l'origine, effectivement, d'une amélioration, je dirais, des relations Est-Ouest, même si cela reste très controversé dans les nouveaux Länder, elle est quand même, c'est vraiment durant sa période, ces 16 années, qu'on voit le chômage reculer fortement globalement en Allemagne et à l'Est aussi, même si le taux de pauvreté reste quand même assez élevé en Allemagne, il est de 2 points supérieur à la France par exemple, il a quand même globalement beaucoup reculé à l'Est aussi, les écarts Est-Ouest sont considérablement réduits et cela se traduit d'ailleurs dans les intentions de vote, puisque l'AFD est créditée donc d'un résultat nettement plus bas que ce qu'on a pu connaître de par le passé. Donc on a réellement des améliorations de ce côté-là. On le voit également sur le plan du bilan de la crise des migrants, puisque là aussi le niveau de chômage a quand même nettement reculé chez les migrants, donc la part aussi bien de chômeurs que de personnes percevant des aides comme l'allocation chômage 2, donc Hartz 4. Même si là encore, il y a encore des progrès tout à fait importants à réaliser. Il est tout à fait frappant de voir que du point de vue des Allemands, c'est une crise qui est surmontée et d'une manière générale, le bilan est quand même perçu comme assez positif de ce côté-là aussi.
Et effectivement, sur cette question migratoire, Angela Merkel, elle s'est montrée vraiment intransigeante. Hein. C'était finalement, on peut résumer peut-être de cette manière sa politique. L'humanité plutôt que la popularité. On va écouter tout de suite une illustration de cette intransigeance sur le sort des migrants avec des propos qu'elle a tenus en 2015. C'était lors de la conférence de rentrée. Vous allez l'entendre, elle adresse un message absolument clair à ceux qui rejettent ces migrants et elle rend aussi hommage à ceux qui s'engagent pour eux.
Nous respectons la dignité de chacun et nous utiliserons tous les instruments juridiques disponibles pour lutter contre ceux qui s'attaquent à d'autres personnes ou mettent le feu à leurs hébergements. Je suis fière de voir combien sont nombreux ceux qui s'engagent pour accueillir les réfugiés. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui les rejettent. Quand autant de personnes sont prêtes à tout sacrifier pour réaliser leurs rêves en Allemagne, cela ne donne pas de nous une mauvaise image. Le monde nous considère comme un pays porteur d'espoir et de chance, et cela n'a vraiment pas toujours été le cas.
Voilà, Angela Merkel a fait le choix, là où ses collègues européens étaient peut-être un petit peu plus frileux, d'accueillir 1 million de réfugiés. Paul Maurice, ce choix, ce positionnement d'Angela Merkel, qu'est-ce qu'il nous dit du personnage ? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le calcul politique ?
Alors effectivement, elle prend cette décision, mais elle le prend dans le cadre des infrastructures existantes au niveau européen. Ce n'est pas seulement Angela Merkel qui, contre toute l'Europe, prend cette décision. Bien sûr, elle va plus loin et elle incarne aussi cette volonté d'accueil. C'est vrai que c'est la décision qu'elle a prise qu'on peut estimer comme la plus personnelle, peut-être, ou la plus humaniste, la moins calculée, même s'il ne faut pas oublier non plus que l'Allemagne est un pays vieillissant et qui a besoin d'une main-d'œuvre importante que pouvaient représenter ces migrants. Le nombre important montre aussi une forme d'humanité. Alors, on apporte souvent des réponses à cela. La première, c'est son éducation chrétienne, la fille de pasteur, d'une éducation humaniste. Également, on peut aussi parler du fait qu'elle a grandi à l'Est et qu'elle peut comprendre peut-être le fait de quitter son pays, de devoir le fuir pour des raisons politiques et ou économiques.
Je voudrais qu'on revienne également sur un autre volet important de la politique d'Angela Merkel, c'est le volet évidemment économique. En arrivant à son poste de chancelière, en 2005, Angela Merkel avait une ambition, que son pays soit dans le top 3 en Europe dans les 10 ans à venir. Hansel, est-ce que selon vous, Angela Merkel a réussi son pari ?
Alors oui, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit nécessairement lié à la politique d'Angela Merkel. C'est surtout lié aux efforts qui ont été consentis, en particulier par les salariés du temps de Gerhard Schröder, donc du chancelier précédent. En 2005, l'Allemagne est la lanterne rouge de l'Europe. La situation est catastrophique. On est à plus de 5 millions de chômeurs, donc un nombre extrêmement élevé. Lorsqu'Angela Merkel arrive au pouvoir, les salariés ont effectivement accepté des efforts importants, souvent des renoncements à des primes, une augmentation du temps de travail sans compensation salariale, etc. Et tout ça va effectivement produire une hausse donc de la productivité en Allemagne, va permettre progressivement de résorber le chômage. Et en fait, elle va, entre guillemets, tirer profit de cette situation. L'Allemagne connaît une période de prospérité économique, ce qui fait d'ailleurs qu'on associe Merkel à cette période-là. On se retrouve avec effectivement une période extrêmement favorable. Même la crise de 2008-2009 n'entame pas cette prospérité économique. Dès 2010, la croissance repart à la hausse de manière tout à fait remarquable. Le nombre de chômeurs recule fortement également. Et là encore, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle mette à profit cette situation de prospérité économique pour mettre en place des réformes. Ça ne s'est pas fait. C'est ce qui lui est d'ailleurs reproché, notamment sur la révolution numérique, qui ne s'est pas faite en Allemagne. Ça sera plutôt le discours inverse, de dire « vous avez fait des efforts importants, maintenant vous avez le droit de vous reposer ». C'est un peu le message quand elle arrive au pouvoir.
Alors sur le plan économique, Angela Merkel, des crises, elle en a traversé plusieurs. Vous évoquiez à l'instant, Hansel, la crise financière de 2008-2009. Il y a aussi eu la faillite de la Grèce, le Brexit, la pandémie qui a durement affecté l'économie, dans toute l'Europe d'ailleurs. Il y a beaucoup d'experts qui avaient prédit, à chaque fois qu'il y a eu ces crises, qui avaient prédit l'échec de ce qu'allait être la politique d'Angela Merkel. Paul Maurice, est-ce qu'il y a une méthode Merkel qui caractériserait toutes ces gestions de crise ?
Alors effectivement, et pour aller dans le sens de ce que vous dites, en 2005, on prévoyait déjà la fin de la grande coalition et de la chancellerie de Merkel au bout de 2 ans. Donc vous voyez, finalement, les prédictions sont souvent avérées fausses. Sur le plan européen, on a l'illustration un peu de la méthode Merkel, effectivement, c'est-à-dire le fait de réagir plutôt que d'agir. Et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Hansel. Sur le plan économique, elle n'a pas devancé la prospérité, elle n'a pas mis en place des réformes, elle a profité de celle de Schröder, elle a même retiré les réformes sociale qu'elle avait prévue de son programme pour son deuxième mandat. Et au niveau européen, elle aurait pu aussi anticiper certaines crises, prévoir des mécanismes, aller plus loin dans l'intégration européenne, mais elle s'est contentée surtout d'apporter des réponses, souvent nécessaires et souvent très efficaces, bien sûr, notamment pour la crise grecque, où elle a empêché la sortie de la Grèce de la zone euro, même si ça lui a été reproché parce qu'elle a été très dure. Mais on n'a pas de politique d'avenir, il n'y a pas de vision de l'Europe, comme il n'y a pas forcément de vision économique et sociale en Allemagne.
Et comment est-ce qu'elle gérait les crises diplomatiques à l'international ? Parce qu'on a bien vu, lorsque les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan, elle s'est tout de suite prononcée en faveur d'un dialogue avec ces talibans. Est-ce que ce type de positionnement représente ce qu'a été sa diplomatie pendant ces 16 années ? Ou est-ce qu'on est là vraiment dans un cas de figure particulier ?
Alors, le problème de la politique étrangère allemande, c'est qu'elle est toujours balancée entre sa volonté d'intervenir plus et puis le reluctant hegemon, comme disait The Economist en 2013, c'est-à-dire l'idée que l'Allemagne devrait se contenter d'être une grande Suisse, prospère économiquement et ne pas s'impliquer dans les affaires internationales. Et puis, à la conférence de sécurité de Munich en 2014, à la fois Steinmeier, le président actuel qui était ministre des Affaires étrangères, et Ursula von der Leyen, qui à l'époque était ministre de la Défense, avait promis plus d'interventions sur la scène internationale. Mais la méthode allemande, c'est aussi de chercher le plus petit dénominateur commun. C'est visible au niveau européen, de trouver un compromis, mais aussi au niveau international, d'être le passeur, celui qui va permettre aux différents pays de trouver un compromis. On l'a vu sur la crise ukrainienne avec l'annexion de la Crimée, par exemple, avec les accords de Minsk, et ce n'est pas surprenant qu'elle cherche aussi, avec l'Afghanistan, à trouver un compromis, puisque c'était aussi un lieu d'intervention de l'armée allemande. C'est la première fois que l'armée allemande intervenait au sol dans une mission de combat en Afghanistan, et ça représente aussi un traumatisme en Allemagne. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans pour en arriver là? Et donc, peut-être que la diplomatie, la discussion sera plus efficace. Et ça pose aussi la question de l'avenir des interventions militaires de l'Allemagne dans l'ère qui va s'ouvrir après Merkel.
Justement, Paul Maurice, 16 ans après l'arrivée au pouvoir d'Angela Merkel, quel est l'état de la puissance militaire allemande ?
Alors, Angela Merkel a suspendu le service militaire en Allemagne en 2011. Il existe toujours, mais il est suspendu. Et aujourd'hui, l'armée allemande est dans un état assez catastrophique. Elle est, d'une manière générale, complètement sous-financée. Et les financements vont plus à l'entretien du matériel qu'à l'acquisition d'un nouveau matériel. Alors, même au moment du retrait de l'Afghanistan, l'armée allemande n'est pas engagée n'est engagée dans aucune mission de combat. Ce sont des missions humanitaires, des missions dans le cadre de l'ONU. Et la question va se poser pour l'avenir de l'intervention militaire allemande au Sahel. Est-ce qu'elle est capable de soutenir ses alliés dans le cadre européen de l'UTM, dans le cadre du partenariat avec la France? Et d'une manière plus générale, est-ce que l'armée allemande peut et doit intervenir à l'étranger? Est-ce qu'elle en a les capacités? Est-ce qu'elle en a la culture stratégique? Et surtout, est-ce qu'elle en a les moyens matériels et humains?
Anne-Sal, je me tourne vers vous. Il y a un autre domaine important et qui importe d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, qui est très dans l'air du temps, c'est la question environnementale. Il y a 10 ans, Angela Merkel a décidé de sortir l'Allemagne du nucléaire d'ici à 2022. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est une décision qui a payé?
Alors, c'est en bonne voie, effectivement. Donc oui, l'Allemagne compte tenir ses engagements en termes de fermeture des centrales nucléaires en Allemagne pour effectivement 2022, donc l'année prochaine. Alors effectivement, on est à un très très fort recul de la production d'électricité à partir du nucléaire, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Cela reste une décision qui est extrêmement controversée, parce que cela implique évidemment de recourir à d'autres ressources qui sont censées évidemment être notamment de l'éolien, du photovoltaïque, donc tout ce qui est énergie renouvelable. Mais en pratique, cet essor des énergies renouvelables s'est accompagné du maintien à un niveau élevé de l'électricité produite à partir de charbon, et notamment de lignite. Or, le lignite est extrêmement polluant, tout simplement parce que l'électricité produite à base de renouvelables est très incertaine, très irrégulière, ce qui amène à maintenir les centrales à charbon, les obliger à rester en activité 24 heures sur 24. Donc c'est évidemment coûteux en termes d'émissions de CO2, et ça fait partie des éléments qui lui sont reprochés, d'autant plus que l'Allemagne a décidé donc bel et bien la sortie du lignite, mais pour 2038 seulement. Bien sûr, il est envisagé, si la situation le permet, d'avancer cette date, mais pour le moment, le calendrier, c'est une sortie au plus tard pour 2038. C'est très tard, et on l'a vu d'ailleurs, les Verts ont mis dans leur campagne le souhait d'avancer cette date fortement.
Donc un bilan environnemental globalement mitigé. Est-ce que vous partagez cette analyse, Paul Maurice ?
Effectivement, et puis la sortie du nucléaire qui a été décidée en 2011 l'a été de manière un peu politique. C'était après la catastrophe de Fukushima. Alors que quelques mois avant, Angela Merkel prévoyait de repousser cette décision qui avait été prise à l'époque de Gerhard Schröder quand il gouvernait avec les Verts. Et le problème va se poser pas seulement en Allemagne, mais pour la future coalition, si les Verts y participent, comme l'a rappelé Anne-Sal, ils prévoient la sortie du charbon en 2030, la question va se poser du nucléaire au niveau européen pour la décarbonisation, pour la fin de l'utilisation du charbon. Et notamment dans la relation franco-allemande, c'est un sujet qui pose problème parce que les Français considèrent que le nucléaire est une énergie qui est peu émettrice en carbone.
Toujours sur le plan environnemental, il y a une affaire qui a pu contribuer à ternir l'image d'Angela Merkel. C'était ce qu'on a appelé le Dieselgate. Pour rappel, il s'agit du plus gros scandale économique et sanitaire des années Merkel. C'est une triche aux normes environnementales à laquelle se sont adonnés plusieurs constructeurs automobiles allemands. Est-ce qu'on sait si Angela Merkel était au courant, Hansal ? Est-ce qu'elle en savait ?
Alors, moi, je n'ai absolument rien lu là-dessus. Comme quoi, Merkel aurait été au courant. On est effectivement en plein procès, d'ailleurs, à l'heure actuelle en Allemagne, sur la question. On est convaincu que Winterkorn, donc l'ancien PDG, était au courant au minimum un an auparavant. Mais la chancelière, moi, je n'ai absolument rien vu allant dans ce sens.
Le parti d'Angela Merkel, la CDU, l'Union chrétienne démocrate, a essuyé lors des dernières élections régionales de mars un revers qu'on peut qualifier d'historique. Paul Maurice, comment est-ce que vous expliquez cette défaite et quel bilan est-ce qu'on peut dresser de son action au sein de son parti ?
Le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, a dit récemment, pour expliquer les difficultés de la CDU, que la fonction de chancelière et celle de président de la CDU devaient être liées. Donc il reporte un peu la faute sur Angela Merkel. Et les choses ont commencé peut-être en 2017, au moment où la CDU a fait un score assez décevant, 33%, pour l'Allemagne c'est assez décevant. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une série de défaites. Alors, ça a commencé à l'Est, en Saxe, où il y a eu la concurrence de l'AfD. Et puis, vous l'avez rappelé en mars dernier, en Rhénanie-Palatinat, puis en Bade-Württemberg, où on a la concurrence des Verts et même du SPD en Rhénanie-Palatinat. Et c'est un problème de positionnement de la CDU. C'est-à-dire que dans l'ère post-Merkel, où Merkel tenait toutes les branches de la CDU, on a une aile plutôt de centre-droit, plutôt européenne et européiste, et on a une aile plutôt conservatrice et libérale, représentée par les fédérations de l'Est. Et c'est ces fédérations de l'Est, je le rappelle, en Thuringe, en février 2020, qui avaient contribué avec les voix de l'extrême droite, avec les voix de l'AFD, à l'élection d'un libéral-démocrate, du FDP, à la présidence du Land, contre le candidat de la gauche radicale sortant. Et cet événement a produit une série de réactions en chaîne, la démission de la tête du parti d'Annegret Kramp-Karrenbauer, puis l'élection d'Armin Laschet, qui a été longue à venir, puisque en raison du Covid, elle a été repoussée. Et finalement, on a un manque de leadership à la tête de la CDU. Avec le départ de Merkel, il y a un vide qui a été créé et personne n'a pu l'incarner.
Pour résumer, Hansal, je me tourne vers vous. Quelle empreinte, selon vous, Angela Merkel aura laissée dans la politique allemande, européenne et internationale ?
Alors, comme l'avait dit mon collègue, effectivement, elle aura été vraiment perçue comme l'ancre de stabilité dans la tourmente. C'est une période qui est marquée par de nombreuses crises, comme vous l'avez dit. Et sur toute cette période-là, elle incarne cette stabilité, stabilité politique, stabilité économique, puisqu'on a parlé quand même d'une période vraiment prospère sur le plan économique. Et donc également stabilité sociale, puisque c'est une situation où l'accès au marché du travail est favorable, bien meilleur qu'il a été dans le passé, donc une période globalement positive en dépit de ces crises. On a cette crise majeure de 2008-2009, dès 2010, la crise est surmontée en Allemagne. Nous, en France, 10 ans après, on peine à en sortir. On est vraiment dans une situation où elle va incarner cette réussite-là. Mais effectivement, comme le disait mon collègue, Armin Laschet, l'actuel candidat pour la chancellerie, donc pour le parti de CDU, n'est pas nécessairement perçu comme son héritier. De manière assez intéressante, Olaf Scholz l'incarne tout autant, du SPD.
Paul Maurice, en quelques mots, quel a été, selon vous, le secret de la longévité politique d'Angela Merkel ?
Angela Merkel est une grande pragmatique et malgré tout ce qu'on peut lire, c'est une bête politique formidable. Elle a su utiliser les réformes qui ont été mises en place, auxquelles elle n'était pas forcément favorable. Par exemple, les réformes sociales portées par le SPD durant les grandes coalitions, qu'elle a fait sienne et qui sont devenues à l'actif de son bilan alors que le SPD en était à l'origine.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce décryptage. Hansal, maître de conférences en études germaniques à la Sorbonne Université, et Paul Maurice, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Et sachez que si vous voulez poursuivre et approfondir votre connaissance d'Angela Merkel, vous pourrez découvrir dès demain sur notre site internet un grand reportage signé Harim Lippold, Angela Merkel, un destin allemand.
Priorité santé. Caroline Pa-